Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auxquels s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment promouvoir une culture élémentaire en informatique dans le grand public, s'interroge Gérard Berry. Comment l'hyperpuissance de l'informatique et le développement d'Internet qui nous fait changer magistralement d'échelle bouleversent-ils le monde? Sont-ils aussi révolutionnaires que l'apparition du télégraphe en son temps? Gérard Berry, polytechnicien, informaticien qui a développé le langage Estrel, qui a longtemps enseigné à l'INRIA, l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique, a été titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages de 2013 à 2019 au Collège de France. Depuis la semaine passée, nous vous proposons de plonger dans la révolution numérique en sa compagnie, dans le cadre de la série de cours donnée en 2019 sous le titre « Où va l'informatique ?». Gérard Berry, chercheur et enseignant passionné, s'efforce par tous les moyens de rendre accessible une culture informatique élémentaire qui ferait de nous des utilisateurs vigilants, capables d'user de mots de passe efficaces, attentifs aux enjeux de sécurité numérique, attentifs aux enjeux des données massives et de l'intelligence artificielle, les fameuses machines qui apprennent. Il nous invite à cesser de comparer la matière à l'information, à ne pas subir cette révolution numérique et à nous poser avec lui les questions qui ouvrent des perspectives, et cela sans peur. Le cours d'aujourd'hui est moins technique, Gérard Berry s'attachant à répondre aux questions que ses auditeurs lui ont adressées. Cet exposé revient donc sur la question fondamentale de l'enseignement grand public de l'informatique. Gérard Berry nous glisse au passage qu'il espère que cet enseignement qui se développe enfin en France ne va pas être ennuyeux. En avril 2009, l'informaticien indiquait au journal Le Monde, et je le cite, « On confond la notion de computer literacy avec celle de computer sciences. On fait la confusion entre l'enseignement des usages, la façon de se servir d'un ordinateur, d'un logiciel de traitement de texte et l'enseignement de la science informatique. » Dans les établissements scolaires, on a fait le choix d'enseigner les usages. C'est très insuffisant. C'est la différence entre apprendre à conduire et comprendre comment marche une voiture. Les jeunes quittent le lycée sans connaissance de cette science. C'est une aberration. Aujourd'hui, Gérard Berry le recommande, il s'agit de ne plus être de simples utilisateurs passifs. Alors comment faire? Comment enseigner une pensée algorithmique aux petits et aux grands? Quelle serait l'approche sensible du monde de l'informatique? Pourquoi apprend-on très bien l'informatique en travaillant débranché? Comment se fait-il qu'on peut travailler en informatique sans savoir comment cela marche? Comment la théorie peut-elle venir après? Comment l'informatique est-elle, comme toute technique puissante, à double tranchant? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 février 2019 pour le cours de Gérard Berry, où va l'informatique? Aujourd'hui, retour sur quelques questions de recherche en informatique.
Bonjour à tous. Donc, c'est mon dernier cours sur cette chaire. Et aujourd'hui, donc, quelques compléments et les réponses aux questions que j'ai reçues par Internet, jusqu'à celle que j'ai reçue ce matin en dernière minute, que j'ai pu à peu près intégrer parce que c'était la même qu'une autre. Alors, je voudrais dire aussi que ce sont des réponses de ma part aux questions. Ce n'est pas des vérités scientifiques. Il n'y a pas de théorème de fait incontestable là-dedans, c'est des opinions. De même, d'ailleurs, que les questions traduisaient très souvent des opinions et pas seulement des questions, ce qui est assez classique et normal. Donc, on a un agenda qui est assez chargé, comme d'habitude, mais bon, ça ira. En premier, je voudrais faire un complément sur l'interaction et l'interface homme-machine. Ça, je l'ai toujours dit, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé avec Jean-Marie Hulot sur ce sujet. Jean-Marie Hulot est donc l'auteur de la machine Next, l'auteur principal de l'interface du Mac et de l'iPhone, et donc qui connaît très bien ce sujet, et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et je me suis toujours intéressé à ce sujet, parce qu'en gros, c'est un des points faibles de l'informatique, ou c'est peut-être le gros point faible de l'informatique, et je voudrais en citer quelques exemples, et faire vraiment essayer de pousser pour que ça change, et que les informaticiens se rendent compte du problème, parce que je pense que souvent, ils le négligent un peu. Alors, il y a une grande différence entre ce qui est bien conçu et ce qui est mal conçu. Donc, mal conçu, ben, vous avez des sites web plein de vides. Je ne citerai pas de nom, mais si vous cherchez dans les compagnies aériennes, vous trouvez facilement. Des processus d'interaction complètement incompréhensibles. Ça s'améliore un peu, mais c'était assez fréquent, en particulier dans les systèmes de réservation. Alors là, il y a une longue histoire. J'ai malheureusement pas retrouvé le bouquin, je l'ai chez moi. C'est un ami, Patrice Bertin, dont la femme travaillait chez un agent de voyage et qui avait ce livre « Mieux vendre avec Socrate ». Socrate était le système qui a coûté une fortune à la SNCF, qui était adapté des avions, mais adapté au train. Et un train, ça se coupe en deux ou ça se rallonge sur les rails, en gare, alors que les avions, c'est pas vrai et ça a jamais vraiment marché. La SNCF a même été condamnée pour incapacité d'émission de billets, alors qu'ils donnaient des amendes aux gens. Bon, alors ça, c'est une longue histoire, mais je vous montrerai une page de ce qu'il faut écrire pour prendre le train quand on tape sur Socrate, quand on tapait. Là, j'ai eu 2h25 de retard de train en venant de Nîmes, et c'était tout à fait caractéristique. J'avais mon téléphone qui me donnait un retard, le panneau de la gare au-dessus qui me donnait un autre retard, et une voix extrêmement chaleureuse, comme il y a maintenant à SNCF, c'est une très belle voix, qui disait soigneusement l'erreur de la gare, qui n'était pas la même que l'erreur du téléphone. Ça, c'est pas très grave que ce soit une erreur, parce que c'était une caténaire arrachée, c'est pas complètement prévisible ce qu'on peut faire, mais c'est rigoureusement standard. C'est-à-dire, quand vous prenez le bus à Paris, vous regardez l'horaire du prochain bus sur votre téléphone et sur le bus, c'est jamais pareil. Donc ça, j'en fais des photos régulièrement. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça. Il doit y avoir deux services ou quelque chose comme ça qui s'aiment pas. Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Linux il y a longtemps. On a été les premiers à avoir Linux en France, pratiquement, dans la recherche. Et je trouvais qu'il y avait un vrai problème avec les window managers, les gestionnaires d'écran, qui étaient tous plus ou moins mal foutus par rapport à ce qu'on trouvait ailleurs, chez Sun ou chez d'autres gens. Et on me répondait, mais c'est pas grave, t'as le choix entre 30. Mais je disais, mais moi je veux le choix entre 1, pas entre 30. 30 à essayer pour voir pourquoi ils sont mal faits pour des raisons différentes, c'est pas intéressant. Donc c'est difficile, mais il faut savoir qu'un window manager, c'est très difficile à faire. Pas du tout simple, ces objets-là, ni à designer. Il y a aussi des systèmes qui sont hyper paramétrables. Ça se trouve bien dans les appareils photo, vous avez des 80 pages de paramètres. Et par défaut, le paramétrage n'est pas bon. Donc ça, c'est aussi assez courant, surtout dans les systèmes industriels, ça se trouve bien. Et puis vous avez des formulaires très très 20e siècle qui ressemblent à des formulaires avec des cases à remplir toutes dans l'ordre, mais pas du tout dans l'ordre alphabétique, etc. Pour des objets connectés, j'ai aussi ça chez moi. Ça c'est pas normal quoi. On est quand même au 21e siècle, pas au 20e, et il n'y a pas de raison de faire des choses qui étaient valables au papier du 20e siècle. Donc ça c'est les systèmes mal conçus. Vous en connaissez évidemment beaucoup, mais les gens ne râlent pas. C'est ça que je trouve extraordinaire. Je trouve ça normal que les systèmes soient mal conçus. J'ai jamais trouvé ça normal. Bien conçu, ben il y a très peu de façons de faire. C'est élégant, ça s'enchaîne bien et ça provoque une espèce de satisfaction intérieure quand on l'utilise. Ça, c'était le cas des premiers systèmes comme l'Alto hein, en 1960. L'Alto, c'est très très ancien, c'est 1973 ou 14. Et les premiers bitmaps, ils ont tout de suite travaillé ça. Et c'est de l'art en fait. Et donc, justement, chez Xerox, il y avait Doug Engelbart qui avait implanté la souris en 1967. Hein. C'est 1967, il y avait juste pas beaucoup d'ordinateurs, mais il y avait déjà la souris. Le bitmap, c'est 1973 sur l'Alto avec les vrais logiciels et la gestuelle tactile qui existait avant l'iPhone, mais qui était déjà bien prête quand l'iPhone est sorti, mais qui avait pas d'usage parce que sur un écran, c'est pas si pratique que ça. Bon. Et le problème, c'est souvent les adultes raisonnent en fonction d'eux-mêmes. Ben, soi-même, on n'est plus là dans le jeu. C'est les gamins qui sont là dans le jeu. Un gamin, même à 2 ans, il a aucun problème avec tout ça. Une interface aux machines bien faite, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, un bon système n'a plus de documentation, ce qui est parfois un petit peu exagéré. Et les enfants sont tout à fait déçus quand ça marche pas avec une vraie photo. Ça, c'est caractéristique de voir un enfant de 2-3 ans qui fait comme ça sur une photo papier et qui est tout déçu de voir que la tête de sa mère ne grandit pas. Tout n'est pas parfait, jamais, mais, ou alors les opinions sont différentes. Par exemple, moi, j'aime pas tellement l'explorateur de fichiers, le Finder du Mac, parce que je suis sans arrêt obligé d'en ouvrir deux. Par exemple, pour copier un fichier, on est obligé d'ouvrir la destination et la source, alors que sur Windows, on n'a pas du tout besoin de faire ça. Et bon, mais c'est comme ça. Et puis, ce que je pense, c'est vraiment, il y a beaucoup d'informaticiens qui ont encore cette attitude de dire, si ça me va, ça doit aller aux autres. Moi, ça me plaît, donc c'est bien. Et ça marche pas du tout dans ces domaines-là. C'est une attitude qu'on voit bien sûr dans les langages de programmation ou dans d'autres endroits, qui n'est pas injustifiée. Mais dans ce cas-là, faut pas penser pour les autres. Faut penser que pour soi-même. Voilà. Donc, c'est un sujet que je n'ai pas traité dans mes cours à Paris, mais j'en ai parlé dans mon cours à Lille en 2015 sur la photographie, qu'est-ce que c'est que l'ergonomie d'un appareil photo numérique. Et Stéphane Huot, qui est un spécialiste de ça, a fait un séminaire sur l'interaction machine que vous pouvez voir sur le web. Alors, un exemple de mauvaise interface machine, c'est les mots de passe. C'est un des gros points faibles des systèmes informatiques. Les gens mettent des mots de passe pourris. Et ils ne le savent pas, ils pensent que leurs mots de passe sont bons. Et ils ont raison de penser ça, c'est juste pas vrai. Pourquoi ? Ben, si on les regarde, par exemple, expérience typique, ma petite fille prend l'iPad de ma femme et dit « C'est quoi ton mot de passe ?» Elle dit « Je ne veux pas te donner mon mot de passe. » Elle dit « Bon, alors c'est quoi ta date de naissance ?» Tout à fait typique. Hein. Donc les dates de naissance, il y en a moins de 40 000, hein, vous pouvez compter, c'est vite vu. Les mots du dictionnaire, c'est à peu près pareil. Donc dès qu'un mot est dans le dictionnaire, pour un robot, ça se casse comme ça. C'est rien. Et ça, c'est pas évident parce que les gens imaginent que c'est des gens qui essayent de casser les systèmes. Mais c'est pas des gens, c'est des programmes. Avoir le même mot de passe sur plein de sites, c'est totalement logique, vu qu'on explique aux gens qu'il faut faire des mots de passe difficiles à se rappeler. Donc ils s'en rappellent pas, donc ils en mettent un partout. Ou deux, trois partout. Donc ça, c'est un vrai bonheur pour les attaquants. Quand ils en ont cassé un, après, c'est le rêve. Donc j'ai une amie qui s'est fait voler son identité, complètement. On met très, très, très longtemps à récupérer son identité parce qu'on est suspect à ce moment-là, en plus. Et les vols de compte, c'est extrêmement dur. De temps en temps, vous recevez des lettres de vos amis en disant « Je suis malade, envoie-moi 250 euros. » Elles sont de plus en plus perfectionnées, hein, faut pas croire. Bon, mais il y a une solution quand même qui est connue et qui est très, très liée à la notion d'interaction machine. C'est les coffres à mots de passe. C'est assez récent qu'on en trouve des biens. Il y en avait des très, très incompréhensibles, c'est-à-dire des où il fallait savoir programmer. Et pour porter sur deux machines, c'était compliqué. Mais ceux qui sont bien faits, ben voilà. Donc, la loi de base des mots de passe, c'est une loi d'ergonomie typique. Un mot de passe fait 12 caractères et est complètement aléatoire. Donc, on reconnaît un bon mot de passe au fait qu'il n'y a aucun moyen de s'en rappeler. Si vous vous rappelez de votre mot de passe, c'est qu'il n'est pas bon. Ou alors, c'est très particulier, c'est que vous avez choisi un truc auquel vous tenez vraiment. Et donc, il y a un ingénieur américain qui a un jour dit une règle. Pour qu'un mot de passe soit bon, il faut mettre deux capitales, un ou deux caractères spéciaux, un chiffre. Et donc, tout le monde s'est engouffré dans ce truc qui est complètement absurde, qui n'a aucun intérêt, et il n'a aucun avantage, strictement. Et maintenant, cette personne a fait un mea culpa public sur le web en disant qu'il avait eu une mauvaise idée dans sa vie qui embête l'intégralité du monde. C'est ça, ça ne sert rigoureusement à rien. Et d'autant plus que les sites sont tous différents sur leurs règles. Donc, en plus, ça vous oblige à avoir des mots de passe différents dont vous vous rappelez d'aucun. Mais là, on s'en fiche. Avec un coffre à mots de passe, on fait générer un mot de passe aléatoire avec ou sans caractères spéciaux pour obéir aux gens. Il y a des règles. Bon, moi, j'ai à peu près 160 connexions web. Et ben, j'ai 160 mots de passe. Je n'en connaîtrai jamais aucun. Puis c'est tout. Je ne peux même pas les voir, hein, sauf en demandant vraiment fort. Et je n'ai qu'un mot de passe maître. Et quand je veux aller sur un site, je clique sur le coffre à mots de passe, pas ailleurs. Je ne sais même plus le nom des sites, d'ailleurs. Pas besoin non plus. Et donc, je peux aussi envoyer un login, par exemple, partager des choses avec ma femme ou mes enfants, sans qu'ils connaissent mon mot de passe. Ça marche aussi très bien, ça. Et bien sûr, l'IHM de ces coffres est absolument central. Il est hors de question que, par exemple, si c'est une société, que cette société connaisse vos mots de passe. Non, il connaît que le crypté de vos mots de passe. Il faut que l'écryptage soit sérieux. Et bien, il y a beaucoup de choses à expliquer au grand public. C'est très difficile. On essaye de le faire dans ma région et on n'y arrive pas. Les gens ne viennent pas. Bon. Ils préfèrent se faire pirater. Il faudra attendre qu'ils se fassent pirater plus. Alors, on va commencer aux questions. Là, une question qui a à voir avec l'IHM. Estirer les coques, aurait-il pu éviter XC-888 et Absheim? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'XC-888, c'est peut-être un avion. Sur Absheim, c'est tout à fait clair, c'est un problème d'IHM, bien identifié en particulier. C'est qu'il y a sur un écran un chiffre qui était mal détrompé et qui montrait soit des mètres par seconde en descente, soit des degrés. Et les pilotes ont fait la confusion entre les deux. Ah, c'est pas Absheim, c'est le Mont-Saint-Odile, pardon. Absheim, c'est moins clair, hein, là. Plus de l'avionique. Mais là, au Mont-Saint-Odile, c'est vrai. Et lisez aussi le document public sur l'accident du Paris-Rio. Vous verrez que c'est pas un bug d'IHM, ni il y a une mauvaise compréhension et de la documentation et de l'IHM et de l'entraînement des pilotes. Et c'est jamais clair les causes de ça, c'est jamais déterminant, mais l'IHM est toujours déterminant, en particulier parce que gérer des alarmes, c'est très dur, dans la mesure où il en arrive plein en même temps. Ah oui, autre question, une obligation légale de watermarking visible et invisible des vidéos diffusées par les chaînes d'information peuvent-elles empêcher les fake news? Suggestion de Jacques Stern, je n'en ai pas la moindre idée, mais ce n'est pas idiot. Je ne sais pas si les watermarkings arrivent à se carcasser ou... Je ne sais pas. Mais la question est bonne. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Alors, on va parler maintenant de questions qui sont posées par Gégé. Gérard Giraudon, qui est ici, qui est d'accord pour que je donne son nom. Pour tous les gens qui ont posé des questions, comme je ne leur ai pas demandé, je mettrai que les initiales. Et s'ils veulent, je pourrais mettre les noms dans la version finale. Donc, l'arrivée des données massives. Donc, c'est une question assez longue, mais très pertinente. Étapes successives dans le développement de l'informatique, algorithmes, machines, langages et machines construites par programme. Or, les données massives et leur analyse prennent très vite une place très importante sans vrai besoin de langage de programmation. C'est vrai que pour faire les réseaux de neurones, c'est des programmes qui font deux pages dans des langages, ce qu'on appelle des DSL, des Domain Specific Languages, comme Torch et tout, et puis on fait du Python pour assembler tout ça. C'est vraiment comme ça que ça se fait en ce moment. Alors, oui, là, il faut que je réponde. Là, c'est différent, j'ai la réponse là, j'ai dit. D'abord, c'est vrai que j'ai pas mis assez de dynamique. Vous savez, j'ai toujours le dessin données, algorithme, machine, langage. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique temporelle. Ce sont les algorithmes qui sont arrivés en premier, puisque le mot algorithme vient de 1215 et al-Khwarizmi de 850, mais les algorithmes étaient là avant l'écriture. Les machines sont arrivées ensuite, dans les années 40, fin des années 40. Les programmes sont arrivés après, parce qu'au début, les machines, c'était pas vraiment des programmes, c'était un peu d'assembleurs, les programmations. C'est les années 50, moitié des années 50, avec COBOL, FORTRAN, tout ça. Et puis, les données ont existé toujours, mais sont devenues vraiment beaucoup plus importantes à l'heure actuelle. Donc, il y a cette hiérarchie temporelle que j'ai pas assez mentionnée, c'est clair. L'influence de l'extérieur sur les langages est pas du tout un phénomène nouveau, hein. Au début de l'intelligence artificielle, de la quête de l'intelligence artificielle, pardon, c'est là qu'on a inventé l'ISP. John McCarthy a inventé l'ISP en 1957. Et l'ISP était une révolution intellectuelle par rapport à Fortran. Les OS et la répartition, donc les OS au début, il n'y en avait pas. Puis après, la répartition, ça a donné l'étude du parallélisme avec Dijkstra-Hoare et des tas d'autres gens après. L'embarqué, ça a donné le langage synchrone que j'ai beaucoup illustré ici, Lustre, Sterel, etc. Le web, ça a donné la dynamicité dans JavaScript, des choses comme ça. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle application, il y a des nouveaux langages. Pour les réseaux de neurones, c'est pas absolument clair. Pour l'instant, s'il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver en langage, mais ça pourrait arriver. Mais ça ne pourrait arriver de façon intéressante que si le domaine est mieux compris, ce qui n'est pas encore le cas. On fabrique ces neurones, ces réseaux, mais on ne sait pas exactement comment les prendre intentionnellement, si on les prend extensionnellement, c'est-à-dire en les fabriquant. Alors, Gérard, dans mon expérience de visionneux, que je retrouve un peu partout, parce que tous les champs sont assez similaires, en fait, dans les données, bien qu'ils soient différents techniquement, mais les idées sont centrales, sont les mêmes. Les connaissances descriptives qui décrivent l'état du monde et leur agencement, ça c'était ce qu'on faisait avant, par exemple avec les diagrammes de connaissances et des trucs comme ça, qui n'ont pas été des très gros succès. Et les connaissances opératoires qui décrivent des processus de manipulation et de transformation de données. Oui, c'est ça qui se passe en deep learning. Éventuellement, niveau d'abstraction différent, ça c'est pas tout à fait facile à faire en deep learning, par exemple. Pendant longtemps, les efforts ont porté sur les connaissances opératoires, sur le comment faire, c'est vrai en programmation aussi, à travers des nouveaux algorithmes de traitement de données et des efforts sur les calculateurs, c'est-à-dire, j'ai parlé des chips spécialisés et des choses comme ça. Et bien, d'un autre côté, il y a eu des recherches sur les données. Serge Abitboul, qui a eu la chaire informatique et sciences numériques il y a une dizaine d'années, en est bien l'incarnation, c'était un grand des bases de données. Alors, quand on parle de réseaux de neurones, la distinction n'est plus très claire. L'architecture du réseau dépend de l'abstraction qu'on veut obtenir ou qu'on essaye d'obtenir. C'est quand même assez artisanal pour l'instant, à partir d'un échantillon très grand, représentatif plus ou moins de la variabilité dans les données. Ça, les réseaux de neurones, ça reproduit les biais des données, c'est connu, et on ne peut pas faire autrement, de façon simple. Peut-être on peut faire autrement après. Donc, programmation orientée données, ça me paraît tout à fait approprié. La question, c'est quel est le sens qu'on peut donner à ce mot ? Or, de mon expérience, lorsqu'on a trop mélangé des connaissances, on a du mal à expliquer pourquoi ça marche. Le mélange d'opératif et de descriptif, oui, que tant qu'on ne maîtrise pas, c'est arrivé longtemps dans la sémantique des langages classiques. Si vous suivez le cours de Xavier Leroy, on voit ça très très bien dans l'histoire. On fait d'abord de l'opérationnel, puis après on essaye de changer. Et donc, travailler d'abord sur l'opératoire, c'est assez normal. Parce que ben, quand on a un truc qui marche, ben, on s'en sert, on essaie de le faire marcher. Tout a été fabriqué comme ça. Les moteurs, heureusement qu'ils n'ont pas été théorisés complètement avant d'être fabriqués, sinon on saurait juste les faire maintenant, hein, certains. Et la conception des circuits, c'est pareil. Les circuits, ça a été très artisanal, avec du calcul booléen, mais ça, il n'y a pas beaucoup de théorie là-dedans. Et il n'y a pas longtemps, en fait, qu'on sait dire ce que fait un programme, spécifier un programme. C'est même un problème qui n'est pas vraiment résolu, pour le parallélisme, par exemple. Mais il n'y a pas longtemps qu'on sait faire ça, et il n'y a pas longtemps qu'on sait vérifier qu'un programme fait ce qu'il faut. Parce que écrire un programme, c'est bien. Spécifier ce qu'il doit faire, ben, ça se faisait toujours après. Et enfin non, il y avait des documents papier plus ou moins foireux. Et le vérifier, ben, c'est une question assez compliquée, parce que si on ne spécifie pas, c'est dur à vérifier. Mais on fait ce qu'on peut, et il y a beaucoup de systèmes qui marchent. Puis alors, évidemment, il y a une autre question, c'est que quand on a du succès, pourquoi ne pas continuer ? Alors, donc les théories adéquates, par exemple, en programmation classique, j'en ai montré certaines, les sémantiques de Scott, les sémantiques ordonnées, j'ai montré ça en 2010, ou les approches, d'autres approches pragmatiques, pour la BDD SAT, pour la vérification, qui sont aussi des approches pragmatiques à la base, hein. Donc, SAT, que j'ai enseigné ici, la satisfaction booléenne, un algorithme fantastique, est absolument pas plus théorisé que le deep learning. Personne ne sait pourquoi SAT marche. On sait beaucoup mieux comment il marche que le deep learning, quelque part, mais personne ne sait pourquoi ça converge, dans tant de cas. Et puis, il n'y a vraiment pas longtemps qu'on sait dire pourquoi tel programme doit résoudre tel problème. Et voilà, donc c'est pas rare ce système, et là on est au début d'une longue histoire. Mais malheureusement, la compréhension, ça ne va pas être simple, et c'est Stéphane Malat, ce n'est pas moi qu'il faut voir pour ça. Hein. Moi, je n'ai jamais fait de ça. Et puis, pour par exemple, les classes de complexité, ça date de 1973, enfin, NP, ça date de 1973. Ça n'a jamais empêché les gens de programmer avant, hein, heureusement. Donc, c'est toujours cet équilibre. C'est assez rare que la théorie vienne avant dans les domaines techniques. Mais à un moment, il faut qu'elle soit là. Donc la question, c'est quoi ? C'est est-ce que cette nouvelle façon de faire la programmation peut permettre d'élaborer de nouveaux langages de programmation permettant de refaire cette distinction entre les connaissances, par exemple des approches géométriques ? Alors ça, c'est vraiment une bonne question. J'en avais déjà parlé pour SAT. Ça marche, SAT, ça marche parce qu'il y a une géométrie cachée dans le problème, mais on ne connaît pas cette géométrie. Donc si on connaissait cette géométrie, ça peut être des complexes simpliciaux, ça peut être des tas de trucs. Si on connaissait cette géométrie, ça permettrait d'avoir une compréhension bien plus forte et en général des algorithmes bien moins heuristiques et bien plus efficaces. Donc, ça a été fait beaucoup. Donc, en programmation fonctionnelle, effectivement, on parle directement des fonctions qu'on calcule au lieu de dire comment on les calcule. Lisp, une de ses grandes choses, ça a été de ne plus gérer la mémoire, qui était l'objet sacré d'avant. Et je vous ai montré que les OS qui essayent de gérer la mémoire, ben, ça leur met des trous de sécurité dans tous les sens. Donc, c'est juste trop dur de gérer la mémoire. La programmation logique et la programmation par contrainte, on donne des contraintes et on espère que le système va les résoudre. C'est très dénotationnel. C'est moins garanti, mais enfin, c'est pareil. STRL, c'est pareil. On met en évidence le flot de contrôle temporel. On met en évidence le temps dans le programme. C'est ça, STRL. L'idée, c'est ça. Alors que dans les langages classiques, on peut juste pas faire ça. Puis tout ça, ça a pris quand même beaucoup de temps, énormément de temps, et donc problème ouvert pour les données, mais c'est certainement un des problèmes très importants dont on parlera pas dans les journaux, mais qui sera vraiment important pour le futur. Je sais que Martine Abadi, qui a été professeur ici aussi, a pas mal travaillé sur Torch, par exemple, et sur des langages de CIPLA, mais je sais pas ce qu'il a fait. Alors, question d'après, il y a l'ordinateur chimique. Alors, l'ordinateur chimique, c'est une machine dont les principes de calcul sont complètement différents, des principes habituels. Je l'ai déjà montré deux fois, mais je vais vous le remontrer. Et l'ordinateur chimique est une idée très simple à la base. En fait, Olivier Bournaise, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la définissabilité du calcul et tout, a montré que les réactions chimiques, ça a la puissance des machines de Turing et qu'on peut traduire toute fonction calculable en un système chimique. C'est pas tellement surprenant, hein, parce que, par exemple, le pi calcul de Milner, vous savez, la dernière fois, j'ai dit « Bob attrape l'adresse d'un livre », mais ça, c'est le pi calcul de Milner, en gros. On sait que ça a Turing complet. Parce qu'on peut faire le lambda calcul de l'enfant, c'est très détourné. Là, c'est moins détourné. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, par exemple, en machine chimique? J'ai déjà montré le crypt de Darwin, qui est la définition des nombres premiers pour moi, la meilleure. C'est une réaction chimique, donc les molécules sont des nombres. Et puis, la réaction chimique, c'est quand un nombre rencontre un de ses multiples, il peut le manger. Voilà, c'est strictement tout, hein. Et donc, ça calcule les nombres premiers de façon complètement triviale. Là, j'ai des nombres, c'est des poissons carnivores que j'ai mis dans la mer. Et puis, ben voilà, vous lâchez autant de poissons que vous voulez de tous les nombres, et vous pouvez en mettre une infinité dans la mer, et les nombres premiers, c'est les survivants garantis, c'est tout, c'est la seule définition. Et donc là, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de contrôle dans le calcul, il y a le minimum, c'est assez dur de supprimer des caractères dans ce programme, même de la ponctuation. Et en fait, avec ça, on peut après faire des membranes, des cellules avec des membranes poreuses qui vont communiquer ce qu'on appelle des valences, et ça permet de faire. Donc, il y a un papier qui s'appelle The Chemical Abstract Machine, moi-même et Boudol, qui a eu la joie d'être refusé par les deux référis, et publié quand même par l'éditeur, et qui est un de mes papiers les plus cités, et qui est, et oui, parce qu'il y a dedans, il n'y avait même pas de théorème. Mais bon, maintenant, c'est un standard dans le domaine, hein. Voilà, mais l'idée était venue de Rennes, de Gamâtre et Le Métayer. Alors, sur l'enseignement. Donc, une question d'un professeur, mise en place des enseignements dont j'ai parlé la dernière fois, SNT, SNI, comment va-t-elle se passer? Énorme problème. Alors, et puis, il y a le problème de la dispersion qui s'y associe. Donc, le problème est très gros, et je vais être bref dessus. Ça va dépendre de la mise en œuvre, qui est parfaitement cruciale. Et il y a très, très, très peu de professeurs pour former les professeurs qui formeront les professeurs. Donc, à l'heure actuelle, il y a très peu de professeurs capables de former des formateurs. L'éducation nationale s'étant jamais intéressée au sujet, à part les professeurs qui ont fait ISN, il y en a très peu. Il faut former 9000 professeurs à peu près pour enseigner rien que la seconde. Et sur la terminale, on ne sait pas, donc ça va être très compliqué. Il y a quand même des actions qui se font, en particulier à l'INRIA, où il y a des actions fortes sur le site Pixies, le site Insercis et tout, des MOOC pour les professeurs. Donc l'INRIA a un service qui se bouge beaucoup, une direction qui se bouge beaucoup pour ça, et c'est bien. Et puis il y a pas mal d'universités qui agissent aussi. Enfin, ça va être un problème très lourd parce que ça ouvre en septembre, hein. Et le problème de la dispersion, ben il est assez clair. J'ai déjà vu des notes du ministère dans lesquelles on dit « Ah, mais il y a un truc photonumérique, on va le faire enseigner par les profs d'art ». Alors là, oui, ben simplement, ça marche pas, parce que ce qu'on veut la mettre dans le programme, c'est l'unité de l'informatique. C'est-à-dire que les algorithmes sont les mêmes, quasiment, qu'on fasse de la photo numérique ou Internet, c'est le même esprit. Alors si on fait enseigner Internet et géographie, comme c'est déjà fait en cinquième à l'heure actuelle, ou si on fait enseigner la photographie en art, je suis pas sûr que ça marche. Donc c'est vraiment très important. Et si on met des profs, un septième formé pour chacune des sept spécialités, ça va pas marcher, ça va pas marcher, mais ça, c'est très difficile de convaincre les gens au ministère de ça, surtout qu'ils sont extrêmement contraints par le temps et les budgets. Alors, autre chose, les élèves est-ce qu'ils prendront un NSI quand il faudra lâcher une option? Parce qu'il y a trois options en première et deux en terminale. Et donc, là, c'est clair, les profs sont déjà debout pour ça et disent, mais on va expliquer aux meilleurs élèves qu'il faut prendre maths physique pour aller en taupe. Alors, ça, c'est possible. C'est tout à fait possible, mais je pense que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à l'heure actuelle, il y a un problème dans les taupes qui nous avait été donné par le proviseur de Louis Grand en particulier, l'ex-proviseur de Louis Grand de Saint-Louis et d'Henri IV, qui connaît bien, quand on a fait un bachelor à Polytechnique. Un bachelor différent du système classique. Donc ça a été fait il y a 3 ans, je crois. Moi, j'étais président du conseil d'enseignement et de recherche de l'école polytechnique. Et on a créé un bachelor parce qu'on a eu une alerte sur les taupes, c'est-à-dire que les meilleurs élèves veulent plus forcément aller en taupe pour 2 raisons. D'abord, ça n'a pas de reconnaissance internationale, ça existe nulle part ailleurs. Les diplômes de grandes écoles n'ont aucune reconnaissance ailleurs, quasiment. Et deuxièmement, ils sont dragués et ils se renseignent. Ils ont Internet, donc ils regardent le monde, ce qui n'était pas du tout vrai à mon époque, même récemment, je pense. Ils ont Internet, ils regardent le monde et ils voient ce qui se passe dans le monde et ils se font draguer, des mentions très bien, reçoivent des lettres de Cambridge, de l'EPFL, etc. Donc c'est tout à fait différent. Et puis souvent, ils visent l'international aussi, donc ça joue beaucoup. Mais aussi, l'informatique joue un rôle important dans les grandes écoles. C'est à Polytechnique, je crois que c'est la matière la plus enseignée avec les MATAP. Et donc, ben, les taupes, elles sont tirées par l'informatique, elles sont pas poussées par les profs de taupes, hein. C'est possible que ça bouge, c'est assez difficile à dire encore. Mais voilà, je pense que les profs sont pas forcément les mieux placés pour voir les évolutions. Et d'autant plus que la liaison entre les taupes au niveau des profs et le supérieur est pas forcément extrêmement forte. Puis il y a l'essor de la science des données, hein. C'est un mélange de maths et d'informatique qui attire beaucoup. Donc, c'est pas clair. Par contre, il y a un problème évident, c'est le problème des filles, qu'on voit dans cet amphi, hein. largement et qui est vraiment grave et intact. Alors, donc après, a-t-on des facultés algorithmiques ? Comment enseigner une pensée algorithmique ? Faire découper une tâche complexe en tâche plus simple est une solution, mais alors comment enseigner les développements de ces tâches simples à des élèves qui ne les perçoivent pas ? Ça, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce que c'est les élèves qui ne les perçoivent pas ? Ça, c'est pas garanti. Surtout quand on prend l'enseignement très tôt. Et l'enseignement d'informatique doit être pris très tôt. Il doit être pris en primaire ou avant. Et ça, ça se fait ailleurs. Ça se fait en Angleterre depuis très longtemps, par exemple. J'ai mis un temps fou à expliquer au CSP que quand on apprend à des enfants de primaire à additionner de nombres, ce serait pas mal de prononcer le mot algorithme. Hein? Mais le mot algorithme était encore tabou. Maintenant, il est dans tous les journaux. Ça n'empêche pas qu'il se confond souvent avec logarithme, mais c'est juste une petite inversion de lettre. C'est pas grave. Donc, dès que les enfants apprennent à calculer, on peut leur dire ce que c'est que l'algorithme et ce que c'est que monsieur Al-Khwarizmi. Ils verront l'algèbre après, qui est aussi Al-Khwarizmi. Et puis, ils ont l'habitude de voir les processus algorithmiques. Les parents, ils ne les ont pas connus quand ils étaient petits, eux. Ils les ont tout le temps sous les yeux. Ils ont des téléphones, ils voient des téléphones, ils voient, et pour eux, c'est complètement normal. Je clique là, il se passe ci, la page qui arrive. C'est totalement standard, c'est la nature pour eux. Hein. Donc, il ne faut pas du tout avoir une pensée d'adulte quand on pense aux enfants. Et ce n'est pas très facile de ne pas avoir une pensée d'adulte. Hein. Et par exemple, j'ai parlé du débranché et le matériel Montessori, je vais en montrer un tout petit bout, est extraordinairement algorithmique. Et il date de 1930, ce matériel, à peu près, les années 30-50. Et il est tout à fait fantastique et globalement inconnu d'énormément de gens, un peu moins maintenant. C'est comme ça. Et puis il y a Magic Makers, par exemple, qui fait beaucoup, une association qui fait beaucoup d'essais avec les enfants qui sont vraiment intéressants. Donc, à l'INRAE, il y a aussi un projet qui s'appelle Flowworks, qui est vraiment très bien, dont le but est justement de mettre les enfants en position d'apprenti-chercheur. Et les enfants, ils adorent ça. Moi qui ai été enseignant Montessori, je peux vous dire que c'est absolument évident. Alors, question d'après, a-t-on des facultés particulières pour travailler de manière algorithmique ? Par exemple, pour ma part, je n'ai pas de fibre artistique. Ça aussi, je pense que c'est vrai, il y a des gens qui ont une fibre artistique à 2 ans, d'autres qui n'en ont pas à 50 ans, mais c'est quand même beaucoup une matière d'éducation. Si vous regardez, par exemple, en France, le dessin et la musique, c'est des matières rejetées. Ça a toujours été comme ça dans l'enseignement. En Allemagne, pas du tout. En Allemagne, la musique, c'est un truc fondamental. Vous avez des chorales partout, vous avez des orchestres partout. On a à Marktoberdorf, qui est un endroit célèbre pour les écoles de PhD l'été, ben, on a été accueillis par un quatuor de profs qui nous a joué le 16e quatuor de Beethoven. Hein. C'est pas tout à fait courant. Chez nous. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi l'éducation qui est vraie, mais il est vrai qu'il y a des gens qui aiment moins ça, même en informatique. Il y a des gens qui aiment pas les algorithmes, qui aiment bien les raisonnements abstraits, même en maths. Les théoriciens des nombres, ils aiment bien les algorithmes, les théoriciens de la géométrie algébrique, c'est moins vrai, c'est assez normal. Mais je pense que tout petit, on peut empêcher les gens d'aimer. Ça marche très facilement, ça, d'empêcher les gens d'aimer. Après, les faire aimer, c'est un autre problème, mais au moins qu'on les empêche pas, quoi. C'est un problème standard dans l'enseignement.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'informaticien Gérard Berry. Aujourd'hui, retour sur quelques questions de recherche en informatique.
Alors, un autre problème assez rigolo, c'est un prof, en ce moment, il y a beaucoup de discussions de profs, en particulier sur une liste qui s'appelle ITIC, sur les profs qui se disent bon, il faut qu'on enseigne l'informatique, puis qu'ils préparent des exercices et tout. Et il y avait un très très joli message l'autre jour qui était c'est bizarre, je fais un trace route sur mes paquets internet et je vois que quand j'appelle je sais pas qui, mon paquet est passé par Londres. Et je trouve ça complètement étonnant. Et ça, c'est exactement une image de l'identification forcée qu'on a dans nos esprits construits avant entre la matière et l'information. Un paquet d'informations, ça doit faire à peu près comme un paquet poste. Eh bien, la réponse est non. Enfin, d'ailleurs, les paquets postes, ils vont pas tout droit non plus. Mais les paquets d'informations n'ont aucune raison. On imagine les paquets postes, ils se déplacent à la vitesse d'un vélo, suivi d'un train, suivi, etc. Mais les paquets informatiques, ils vont à la vitesse de la lumière. Faire un détour par Londres, ça n'a aucun coût. Bon, si vous allez en soit par satellite au Japon pour revenir, ce qui se fait aussi, hein, ça a un coût nettement plus grand. Mais en gros, aller à Londres, c'est tout à fait bien si c'est la bonne méthode ce jour-là, si les tables de routage sont foutues comme ça ce jour-là. Et ce serait une très mauvaise idée d'essayer d'optimiser ça. En fait, l'optimisation est statistique. Essayer de faire mieux localement, la seule truc que ça fait chauffer le monde. Donc, essayer d'optimiser, ça produit de l'entropie. Et comme c'est pour lutter contre l'entropie, c'est juste un peu dommage. Donc, il faut trouver les bons équilibres. Et il y a plein de théories sur Internet, dont François Baccelli, qui était à l'INRIA, qui a posé 6 fois un projet en Europe, qui a été refusé 6 fois, et qui a reçu un coup de téléphone de M. Simons aux États-Unis, un mathématicien qui a fait fortune et a des labos de recherche, qui lui a dit « c'est le meilleur projet qu'on ait jamais vu, on te crée un labo tout de suite ». Et il y est allé, pas à plein temps. Oui, c'est pas rare. Alors voilà, donc il y a effectivement une confusion entre la distance géographique et la distance temps. Et ça, c'est bien connu, ça c'est la carte de la France en TGV, elle est vieille, hein, c'est parce que Paris-Bordeaux, Bordeaux est là maintenant, hein, facile, oui, même là. Donc c'est la carte de la France en temps de transport depuis Paris. Elle n'a rien à voir avec la carte de géographie parce que c'est du temps. Ben, en STRL, on a dit que le temps et l'espace, c'était juste dual, on pouvait interchanger. Mais quand on le fait sur une carte, on voit que peut-être il faut passer par Londres, effectivement. Donc, un professeur de SVT nous dit « J'ai l'impression que plus les gens connaissent comment fonctionne l'informatique et plus ils s'en méfient. » Pourquoi pas? Il va être temps. Mais s'en méfier, ça ne veut pas dire en avoir peur. Ça veut dire s'en méfier. Il faut se méfier de vos mots de passe. Ça, c'est absolument clair. Mais il n'y a pas de raison d'en avoir peur puisqu'il y a des solutions. On entend parler dans la Silicon Valley de personnes qui préfèrent confier l'éducation de leurs enfants à un système non numérique. Peut-on se demander si l'ère numérique est vraiment au service de l'apprentissage? Alors ça, c'est pour moi, c'est une question très très importante, mais je dirais il faut absolument pas confondre deux aspects, la compréhension de l'informatique comme un nouveau fonctionnement du monde à enseigner, et puis l'utilisation de l'informatique en tant que support de nouvelles méthodes. Et c'est pas la même chose, donc là je ne sais pas, évidemment on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans l'enseignement, et j'ai pas trop d'avis sur cette question parce que j'ai pas d'expérience personnelle, mais je me méfie des miracles. En particulier parce que les enfants... C'est pas des intellos, les enfants. Ils aiment bien toucher, sentir, entendre. Donc ça, c'est très important. Mais on peut faire des choses bien, quand même. Moi, j'avais un logiciel sur le premier Mac portable qui avait pas un souris, mais une boule, c'était terrible, et qui m'a appris à taper avec mes 10 doigts. Il était très bien fait parce qu'il analysait ma frappe et il me disait, il y a ce doigt-là, il est pas bon, on va faire des exercices pour, en faisant des stats toutes bêtes. Il avait juste un petit défaut, c'est qu'il me disait... Si je faisais rien pendant 2 jours, il me disait « Mademoiselle, vous n'avez pas travaillé pendant 2 jours, votre patron ne va pas être content. » C'était assez typé, quand même. Alors, un professeur de SVT me dit « Je pense que le passage par des productions écrites de ses propres mains sur du papier est important dans la construction de nos connaissances et savoir-faire. Certaines têtes bien remplies préfèrent une éducation sans écran pour la construction des apprentissages de leurs enfants. » Se décide que le numérique est néfaste. A-t-on des retours d'exploitation d'écoles numériques contre une école à l'ancienne? Je pense que c'est un peu trop tôt. J'ai vu des choses, mais très variées. C'est pas homogène. Il y a des gens qui disent c'est bien, des gens qui disent c'est pas bien. C'est très difficile à dire. Puis les pays étant tellement différents en termes d'éducation, c'est pas si simple. Moi, ce que je pense, c'est quand même l'usage des mains, du toucher, des yeux et des oreilles, c'est complètement indispensable pour les enfants. Ils passent leur vie à manipuler. Hein, c'est pas des intellos, mais c'est des observateurs invraisemblables. Donc, c'est important. C'est pas incompatible. Hein, le matériel Montessori est complètement à base de, je vous montrerai des bouts, à base de perles, de bois, de matériel extrêmement simple qui laisse aucun choix de non-compréhension. Hein, c'est joyeux et on a juste pas le moyen de pas comprendre avec. C'est très important. Et donc, on attrape l'abstraction à partir de la manipulation. surtout chez les petits, mais même chez les grands, hein, je ne voudrais pas dire. Quelqu'un qui étudie que les maths, que abstraitement, sans jamais faire de calcul, sans jamais regarder, sans jamais rater, à mon avis, ce n'est pas forcément terrible. Donc, voilà par exemple le robot Cubetto, qui est très très bien fait. Ça, c'est pour les tout petits, les 2-3 ans. Vous voyez, c'est un truc de labyrinthe. Donc, le robot va être télécommandé par la chose qui est là-haut. Et dedans, vous mettez des pièces. Hein, vous avez un chemin de pièces qui suivent, c'est une séquence. Et ces pièces disent ce que va faire le robot. Et les enfants mettent les pièces, et puis le robot obéit. Et c'est super parce que il y a rien à expliquer, ils le trouvent tout seuls. Hein. On leur file le robot, on leur file ça. Au bout de 2 heures, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc les enfants, quand on les passionne, il n'y a pas besoin de faire de l'enseignement. Hein. Après, il y a besoin de faire du guidage, mais c'est pas la même chose. Donc c'est plutôt les détacher qui devient un problème après. Ça, c'est un matériel absolument typique. Vous voyez, c'est une planche avec 100 trous. C'est un truc qui vous explique aussi, vous explique comment la fabriquer, si vous voulez. Planche avec 100 trous dans laquelle il y a 100 billes. Et puis, il y a une ficelle, vous voyez. Donc, si vous savez pas combien fait 7 fois 5, vous mettez la ficelle autour de 7 et 5, et puis vous mettez deux règles, c'est pareil, et puis vous remplissez toutes les cases, puis vous videz le machin, puis vous comptez. Ah, 7 fois 5, 35. Vous faites pas ça 10 fois, hein. Mais c'est très, très efficace, et c'est extraordinairement simple. Et il n'y a pas besoin de prof, hein. Ça, c'est des barres de perles. Vous avez des barres de 9, des barres de 8, de 7, de 6. Quand vous les repliez, ça fait des carrés. Là, vous avez aussi des carrés, puis là, vous avez des cubes. Et donc, ça sert à comprendre la multiplication avec des plis. Et c'est tout bête. Alors, vous en avez plein, des matériels comme ça. Je ne peux pas tout vous montrer, mais il y en a que j'ai utilisé dans mes cours. J'utilisais, par exemple, le matériel de multiplication Montessori pour montrer comment on fait une multiplication à la même vitesse que l'addition. Ça, vous pouvez toujours essayer, mais vous regardez, j'ai un cours qui fait ça. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne pense pas que les tablettes soient utiles s'il n'y a pas d'excellents logiciels. Il y en a des très très bons pour les enfants, pour le calcul, pour les petits-enfants, pour le calcul et la lecture, qui sont vraiment très bien. Mais j'aime bien la vision débranchée, c'est pas incompatible, parce que les tablettes aussi sont tactiles. Elles sont complètement sensorielles pour les enfants. Il y a du son, c'est tactile. Elles sont tout à fait sensorielles, les tablettes. Hein. C'est plus les ordinateurs de papa. Hein. Mais ça dépend aussi beaucoup. Ce qui compte, c'est le couplage des modalités, qui peut dépendre de chaque enfant d'ailleurs. Donc, c'est pas le tout machin. N'a jamais aucun sens. C'est assez simple en éducation. Le tout truc, ça n'a pas de sens. C'est assez rare que ça a du sens ailleurs, mais bon. Donc peu d'écran, parce que le temps d'écran, effectivement, est extrêmement prenant pour l'enfant. Peu d'écran avec des beaux projets et des beaux logiciels, c'est super. Mais c'est comme pour la télé. Hein. Si vous voulez que votre enfant se calme, vous le mettez devant la télé. Hein. Et ma femme, qui était enseignante Montessori dès 2-3 ans, mettait exactement 5 minutes à savoir si un enfant avait la télé. Donc moi, nous, on contrôle bien nos petits-enfants. Pour ça, les temps d'écran sont rigoureusement contrôlés et ça se passe très bien. Alors maintenant, une longue lettre de CD. OK, pour l'enseignement de l'informatique, y a-t-il d'autres domaines qu'il faudrait enseigner aussi? Exemple, l'abstraction, le quantique, etc. Bon, le quantique, je ne réponds pas parce que je pense que je ne sais pas répondre. Et vous parlez d'université de l'informatique, mais le citoyen moyen subit face au monde numérique des situations qu'il ne comprend pas. Alors, réponse à la première, l'art, oui. Faut enseigner l'art, ça se fait souvent chez les petits, et ça se fait maintenant chez les grands. Hein. Au bac, il y a une spécialité, une des 12, qui s'appelle les arts, et il y a une session art du cirque, et les arts du cirque sont particulièrement formateurs pour les enfants, et il y en a beaucoup qui se font en France maintenant, et c'est extrêmement varié, extrêmement formateur, parce que c'est à la fois physique et il faut réfléchir, quoi. Donc apprendre à jongler, c'est pas juste essayer pendant 3 heures, hein. Donc c'est très très bien. Pour l'abstraction, ben enseigner l'abstraction, ça veut rien dire. Ce qu'on peut enseigner, c'est une progression vers l'abstraction. C'est assez rare les gens qui sont abstraits de nature. Hein, mais par contre, on apprend l'abstraction en essayant d'identifier les mécanismes qui font que les choses marchent. Et ça se bootstrap l'abstraction, c'est-à-dire qu'on peut abstraire des abstractions, mais si on n'en a pas déjà au début, on va pas commencer par prendre les abstractions les plus hautes. Bon, voilà, c'est un équilibre concret-abstrait. Sur l'universalité de l'informatique, le citoyen subit, ben, c'est exactement pour ça qu'on dit qu'il faut enseigner et que je fais des cours un peu comme ici cette année. Le citoyen moyen subit parce qu'on ne lui explique pas et que quand on lui explique, il n'ouvre pas forcément les yeux s'il n'y a pas de danger. Mais comme les dangers arrivent, ça va... Il n'y a pas qu'en informatique que ça se passe. Hein. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est de remplacer les recettes. Quand vous achetez des canards... trucs et astuces pour faire un machin, vous pouvez pas dire ça toute votre vie, vous saurez rien, à part les trucs et astuces, on peut dépasser ça. C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'enseignement. Et je pourrais vous raconter des histoires fantastiques sur le travail que je faisais avec les 6-9 ans sur l'image et le son, en particulier sur le son, qui n'est pas du tout intuitif, où on sortait des trucs pas possibles. Dans l'enseignement, est-ce que les instituts doivent s'engager ? Les instituts, oui, doivent s'engager. Les chercheurs le font de plus en plus, mais séparément. L'INRIA le fait en grand. L'université va évidemment intervenir pour le CAPES. Mais les enseignants du primaire et du secondaire, c'est compliqué. Et surtout, le problème, c'est de pas leur apprendre des machins disjoints juste parce qu'ils doivent les enseigner. Si on apprend les maths à un enseignant de maths, c'est pour qu'il ait une vue globale, pas seulement une vue seulement des exercices à résoudre. Et il va falloir que ça se passe en informatique, sinon ça va devenir une matière ennuyeuse. Ma grande peur a toujours été que l'informatique soit aussi ennuyeuse que l'ont été d'autres matières quand j'étais petit. C'est facile de rendre une matière ennuyeuse. Et puis il y a 3 catégories à viser dans le grand public, je l'ai déjà dit, les médecins, les juristes et les journalistes. Mais je pense qu'aussi les informaticiens ont une responsabilité. Souvent, j'entends se plaindre que le public sait rien. Ben oui, le public ne sait que ce qu'on lui apprend. Hein ? Et il n'a pas trop de moyens pour l'instant. Donc c'est vraiment un sujet très important que les physiciens traitent, que les astronomes traitent. Ils ont l'avantage que le ciel, ça fait rêver. Alors, maintenant des questions. On va plus sur des domaines de fonds sociaux. Informatique, économie, travaux collectifs. En raison de ses propriétés paradoxales de reproduction, de conservation et de transmission instantanée sans perte, l'informatique vient ruiner toutes nos intuitions sur ce qui concerne les échanges économiques, notamment celle du juste prix. Elle met en lumière l'importance des échanges non marchands. Alors je pense que c'est juste un problème de changement d'échelle. Tout ça, ça existait avant. Sous d'autres formes, mais pas forcément pareil. Moi, je dirais, ces propriétés, d'abord, les propriétés d'informatique, elles ne sont pas du tout paradoxales, elles sont juste vraies. Il n'y a aucun paradoxe, il n'y a pas de paradoxe, c'est juste comme ça. De même que le moteur électrique, ce n'est pas paradoxal, c'est juste comme ça. Donc oui, on reproduit, on conserve. C'est paradoxal que si on reste collé à la matière, mais si on sait ce que c'est que l'information, il n'y a rien de paradoxal. Il ne faut pas comparer l'information et la matière, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Ça ne marche pas pareil. L'information est très différente. Le juste prix, ce n'est pas une notion économique simple. Les économiques n'ont pas de notion de juste prix, ils ne connaissent pas trop cette notion-là. Ils disent le prix, c'est très simple, c'est la jonction entre ce que le client accepte de payer et le fournisseur accepte de recevoir. Donc la notion de juste, qui a une petite moralité à l'intérieur, il n'y a pas trop en économie. Il y a des prix qui peuvent être immoralement faux, ça oui, mais moralement juste, c'est beaucoup plus dur à définir. Et par contre, les échanges non marchands sont extrêmement répandus et tout à fait étudiés par les économistes depuis longtemps. L'éducation, un échange non marchand. La science, un grand échange non marchand, largement, enfin sauf... si on accepte les journaux qui sont en train d'en prendre un peu à travers la figure, ça ne fait pas de mal. L'art, quand vous voyez une fanfare d'amateurs dans la rue, c'est pas un échange marchand. L'aide aux personnes, qui est quelque chose qui est très développé à petite échelle, c'est pas un échange marchand. L'action culturelle, pas un échange marchand. Les réseaux d'échange de savoir, qui sont assez nombreux, mais très diffus. Mais ça, les économistes connaissent, hein, l'entraide, les réseaux d'entraide, de manière générale. Ce n'est pas des échanges marchands, mais ça a une importance assez forte dans l'économie, que les économies essayent plus ou moins de chiffrer, mais ce n'est pas facile. Puis il y a pas mal d'économistes qui se disent c'est pas le PIB qu'il faut calculer, c'est des tas d'autres indices. Alors, ils ne sont pas dominants dans la bourse, mais ils sont tout à fait importants ailleurs. C'est par exemple les indices de bonheur qui sont très étudiés par les économistes. Si vous regardez Esther Duflo, par exemple, qui est connue comme une très grande économiste, eh ben, elle ne vous parle pas de PIB. Hein. Voilà. Donc, non, les économistes connaissent ce genre de sujet. Ce n'est pas des sujets faciles à attraper. C'est moins facile à attraper que de compter des sous. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne les connaissent pas. Et l'informatique pratique les deux, le marchand et le non-marchand. Donc, le chiffre d'affaires marchand sont gigantesques. Les possibilités d'échange non-marchand sont gigantesques. Et puis, il y a tous les sites d'échange. J'ai parlé de Marmiton, de Couchsurfing et tout, c'est pas des sites marchands, ils sont effectivement gigantesques, mais il y a plein de sites qui sont raisonnablement marchands aussi, c'est-à-dire qui se font payer normalement, pas exagérément. Alors, ce qui se passe, c'est que l'informatique change les échelles, et ça c'est absolument majeur, c'est là que je suis d'accord avec JFP, l'informatique change les échelles grandement, en particulier sur la géographie. Là, avant, il y avait des échanges locaux, surtout sur l'aide aux personnes, par exemple. Et maintenant, ça peut être une géographie arbitraire. Pas tout à fait, parce qu'il y a les silos de langue. Hein, il n'y a pas beaucoup d'échanges non marchands entre la Chine et la France, par exemple, parce que la langue est évidemment une grosse barrière. Et bon, c'est un changement d'échelle très fort, donc ça c'est important. Et c'est quand même trop récent pour comprendre ce qui se passe, parce qu'on est dans des turbulences tout le temps là en ce moment. Donc la turbulence, ça dit pas forcément l'avenir, mais c'est pas simple. Hein. Donc je pense qu'il faut modérer un peu la remarque. Alors pour la même raison, l'informatique a une vertu cumulative, inconnue. Certes, la science est une accumulation, mais l'informatique apporte la co-construction d'artefacts à l'échelle mondiale. Ça, encore une fois, c'est une question vraiment d'échelle, très forte. Donc, c'était vrai en musique. La communication en musique a toujours été extrêmement forte. En musique classique, par exemple, ça a toujours été très fort, à la vitesse des diligences, mais quand même très fort. Les musiciens se déplaçaient énormément. Hein, si Bach écrivait des suites françaises, c'était pas par hasard. Mais le fait qu'il y ait des communications ultra rapides, maintenant, ça permet de généraliser ça à d'autres domaines. Mais j'en parlerai dans la leçon de clôture, c'est pas la première fois. Parce qu'il y a une révolution beaucoup plus forte que Internet, ça a été le télégraphe. Hein, faut se rappeler qu'avec le télégraphe, la communication entre, par exemple, l'Angleterre et l'Inde passait de 4 mois à 4 secondes. Là, on lutte pas sur Internet. Hein. Avant, c'était 4 mois. L'Australie, c'était 6 mois. Et puis après, c'était 6 secondes. Ou 6 dixièmes de seconde. Ça n'a aucune importance. Donc, il faut lire le livre qui s'appelle The Victorian Internet, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est tout à fait extraordinaire et qui montre la violence de la révolution télégraphe qui a été au moins aussi rapide que la révolution Internet. Hein. C'est un livre tout à fait merveilleux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont collaboratives, qui n'existaient pas avant. On va reparler. Mais il y a aussi les fake news et les discours haineux qui sont très collaboratifs, d'accord, et extrêmement collaboratifs et co-construits. C'est pas facile. Alors, une des manifestations de ces capacités, c'est le logiciel libre, hein, l'accumulation d'une multitude de contributions réparties, etc. D'autres voies sont possibles pour les sociétés modernes que le travailler plus pour gagner plus, et des espérances et des fréquentes contradictions de notre système socio-économique, ça paraît signe d'être signalé. Bon, je peux pas être tout à fait d'accord avec ça parce que, à mon avis, par exemple, la collaboration a rien à voir avec le logiciel libre. C'est aussi vrai pour le logiciel professionnel. Vous regardez comment travaillent Microsoft, Apple et tout, c'est exactement pareil. C'est des grandes collaborations d'équipes à travers le monde sur des GitHub. Donc le moyen est le même. L'intention est différente, mais le moyen est le même. Donc c'est pas particulier au logiciel libre. Hein. Et puis par exemple Linux, Linux, c'est pas non marchand Linux. Hein, c'est il y a énormément de développeurs Linux qui sont payés. Ils sont payés par des gens extrêmement variés, qui sont payés par des grandes boîtes comme Microsoft ou Google. Ils sont payés par Red Hat, qui est une boîte moyenne, ou par SUS, qui est plus petit, ou par des tas d'autres gens qui ont intérêt à payer des gens pour faire du collaboratif. C'est tout à fait répandu. Moi, je vois pas où il y a un problème. Les économistes connaissent aussi ces problèmes-là. Mon frère, par exemple, a travaillé là-dessus. Puis il y a aussi énormément de boîtes, hein, dont celles qu'on avait fondées, par exemple, et je dirais la plupart des employés de l'informatique ont plutôt comme objectif de travailler raisonnablement pour gagner raisonnablement. Hein, faut pas réduire l'intégralité de la population des informaticiens aux start-up richissimes. Start-up richissimes, en nombre, c'est pas très gros. Hein, regardez, Google, ça doit être, je sais pas, 120 000 personnes, un truc comme ça. Tata Consultancy Services, en Inde, c'est 350 000. Il n'y en a aucun qui est très riche là-dedans. Il bosse, c'est tout. Un peu comme les enseignants-chercheurs. Donc, je suis beaucoup moins violent que ça, moi, personnellement. C'est personnel. Autre question ici. Est-ce nouveau que lorsqu'une connaissance sort du laboratoire, passe par l'industrie et arrive dans le quotidien des gens, des questions bien légitimes se posent? On voit effectivement les inventions informatiques comme les réseaux sociaux. C'est une invention parce qu'avant, ça n'existait pas. On voit l'effet que ça a. C'est des effets absolument massifs. Est-ce nouveau? Alors là, encore une fois, est-ce nouveau? Non, c'est pas du tout nouveau. Toute la science est comme ça depuis toujours. L'invention de la bombe atomique, regardez les discussions de l'époque. C'est la bombe atomique, c'était autre chose. Hein, je veux dire, Hiroshima, Nagasaki, ça se compare pas tout à fait à ce qui se passe chez nous. Hein, donc, la chimie et l'agriculture. La chimie a permis de faire une agriculture beaucoup plus perfectionnée après la guerre. Elle a aussi permis de faire des sacrés ennuis. Les médicaments, c'est pareil. Les médicaments, c'est très très bien, mais les antibiotiques, on ne sait plus quoi faire avec à cause des résistances. Donc, c'est pas du tout isolé à l'informatique. C'est des problèmes qu'on trouve partout, mais ils sont nouveaux en informatique, donc on les voit plus. Les manipulations génétiques, avec l'informatique, on a oublié le coût des manipulations génétiques. Les journaux n'en parlent plus. Terminé. Les sojas transgéniques et tout ça, c'est terminé. Ça ne cause plus, ça se vend plus, ça reviendra dans 3 ans. Il faut toujours un creux dans les journaux pour que ça revienne. Mais ça existe toujours. Le problème, il est connu depuis longtemps. Par contre, il y a une question importante, c'est quelle est la part d'anticipation des chercheuses et chercheurs dans le passage des connaissances vers le public ? Ah, est-ce qu'on peut anticiper les phénomènes ? Ben, ça, c'est vraiment très difficile. À mon avis, c'est très difficile. Des fois, oui, des fois, non. Est-ce que Google a vraiment anticipé sa naissance à partir de la thèse de pas soutenu de Brin et Page, ça c'est pas clair. Hein. Toute technologie est vraiment complètement à double tranchant. Hein. La poudre, ça permet de faire des tunnels et de s'entretuer. La pharmacie, ça fait des médicaments puis des poisons pour les espions. La chimie, ça fabrique des plastiques très utiles et puis des pollutions des mers par les plastiques. Internet, c'est un merveilleux outil de communication pour tout le monde, y compris les gangsters. Donc, une technologie qui n'est pas à double tranchant, c'est qu'elle n'est pas puissante. Toutes les technologies puissantes sont à double tranchant. Donc ça, ben, c'est très dur à gérer. Et ben, c'est très loin d'être facile à comprendre. On a une belle idée. Regardez les gens qui ont fait Internet. Tim Berners-Lee, à l'heure actuelle, se plaint beaucoup du fait qu'Internet a été dévié de ses intentions originales, qui étaient extrêmement pacifistes et sur la liberté, et que maintenant, c'est un gros bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils pouvaient le savoir ? Est-ce que c'était une raison pour ne pas le faire ? C'est pas clair. Donc, il faut surveiller ces choses-là, mais quand on regarde les anciens papiers, on voit jamais. On peut voir, s'il y a le Club de Rome qui avait parlé du climat, par exemple. Pas de façon très juste, d'ailleurs, mais c'est, au moins sur l'intention, c'était tout à fait juste.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'exposé de Gérard Berry. Aujourd'hui, retour sur quelques questions de recherche en informatique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Gérard Berry. Ces cours sont accompagnés de riches supports visuels dont vous retrouverez les liens sur nos pages. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Gérard Berry sur les questions de recherche en informatique et il sera aux côtés d'Antoine Petit, président directeur général du CNRS. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.